Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 31e, 5e saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Yannick Seyer.
Bonjour.
Historienne, vous êtes d'abord, je pense que c'est votre première qualité, si je puis dire, mais vous êtes aussi cinéaste, hein, et vous avez fait un certain nombre de films, dont un tout récent sur lequel on va inéluctablement revenir, qui s'appelle L'Aude, quelle histoire, n'est-ce pas Yannick ?
Oui, tout à fait. En fait, bon. Je fais du spectacle et du cinéma.
Voilà, donc on va... Bon, on est en plein dedans, on va y revenir tout à l'heure. Le sommaire prévu pour cette semaine, Michel, alors, les européennes, puis polémique sur une prise d'otage, avec, dis-tu, le bashing sur le ministre des Affaires étrangères. Dans une deuxième partie, alors là, c'est sibyllin, déchiffrera qui pourra. D'abord, les territoires d'industrie, puis les poules.
Oui.
Je laisse le suspense entier, tu nous expliqueras tout à l'heure de quoi il s'agit.
Oui. Plus précisément, on aurait pu dire des élus et des poules. Oui. En référence à un célèbre romancier américain.
Oui,
des
voilà,
souris, et des
souris et des hommes. Des souris et des hommes. Mais nous commençons par les européennes. Bon, on est obligé d'en parler un peu quand même.
Bien sûr. Bon. Bien sûr, parce que finalement, Jean-Claude, quand on s'arrête quelques instants sur cette campagne électorale qui va permettre d'élire au plan national des parlementaires français au Parlement de l'Europe, on en tire la conclusion que ben, l'Europe, c'est vraiment pas du tout le sujet de cette campagne.
Oui, mais comme j'ai envie de dire, comme d'hab.
Oui, comme d'hab, peut-être. Moi, ce que je constate quand même, c'est que partis et médias ben, rejouent ben, événement, hein, il faut bien le préciser, la présidentielle.
Il oui, rejoue. Politique à intérieure.
À croire que dans ce pays, et là je vais faire aussi une référence politique à un concept trotskiste, celui de la révolution permanente, que nous vivons dans la révolution présidentielle ou dans l'élection présidentielle permanente.
Oui.
On n'est plus dans le quinquennat, en fait. On est dans un quinquennat qui dure en réalité 2 ans. Aujourd'hui,
hein, on la rejoue. Oui, une remise en cause continue.
On la rejoue, et tous les thèmes qui sont avancés, si tant est qu'il y ait des thèmes, ne concernent en aucune manière l'Europe. Hein, tout se passe comme si...
Et les têtes de liste ne sont pas eux-mêmes de grands Européens, forcément.
Passons là-dessus. En tout cas, de grands Européens ne sont pas forcément de grandes figures de la politique nationale, ce qui contribue effectivement à renforcer le côté paradoxal. On est en campagne des européennes, mais bon, on va surtout traiter de la campagne des présidentielles que l'on continue parce que il faut conflictualiser tout ce qui passe devant nous de manière à préparer les prochaines.
Enfin, être oui, c'est déjà une pré-campagne,
Exactement. Et on arrive de sorte que la seule question qui est posée aujourd'hui, c'est mais qui va arriver premier? Alors on dit pas l'oiseau ou Bardella, je ne sais pas si c'est Bardella ou Bardella, le candidat.
On a du
mais
mal,
qui arrivera le premier? Macron, je ne sais pas si remarqué ça, mais Macron,
Macron
ou Le Pen.
Ah oui, hein, c'est la revanche.
On en est là.
C'est la revanche du débat.
On en est là. Et qui arrivera en tête, comme si cette arrivée de l'un ou de l'autre en tête allait modifier alors, considérablement le cours effectivement du quinquennat.
Ah ben ça c'est la stratégie gilet jaune, le dégagisme,
c'est absurde.
Ah oui,
qui
c'est
peut
absurde,
croire
oui,
qui peut croire aujourd'hui
mais
qui
peut c'est non, mais, absurde
je qui peut croire aujourd'hui que si Madame Le Pen arrive en tête par exemple, ce que je, pour ma part je ne souhaite pas, je le dis clairement, si elle arrive en tête, mais le quinquennat de Monsieur Macron est fini, et il va revenir en arrière ou ne plus rien faire.
Ouais,
c'est absurde.
Ça, c'est du baratin, du pire baratin politicard, quand même.
Mais c'est absurde, mais c'est pas, il n'est pas que politicard. Ce que je constate surtout, en fait, dans cette conjoncture, c'est que le parti et les médias jouent effectivement la même partition.
Alors, ça, oui,
on joue
ça
exactement
hélas, oui.
La même partition.
Ça, hélas, oui.
Et on s'intéresse à quoi? On s'intéresse à la dernière bêtise que, qu'un des candidats qui tire, en fait, une des listes en compétition de 34, que ça, ou un des suiveurs, va sortir sur une antenne de la presse pour la commenter. On en est là aujourd'hui.
Ah oui, alors, le fond. La politique au meilleur sens du terme, alors là, on en est à mille lieues.
Alors, on aurait pu espérer que quand même, ce soit l'occasion pour un pays comme le nôtre d'ouvrir ses frontières mentales à travers ses élus pour poser la question.
Mais là, je ne sais pas s'il y a un espace Schengen pour les frontières mentales, Michel, mais ça vaudra un sujet, ça.
Tu me laisses jamais terminer mes phrases, Jean-Claude. C'était l'occasion, on l'a rêvé pour effectivement pour que nos élus ouvrent, et donc à travers eux, le pays d'une certaine manière, ouvrent leurs frontières mentales. Ils se posent une question simple, mais quel type de rapport entendons-nous instituer entre notre pays, et puis ce qui constitue l'Union européenne aujourd'hui, et aller au fond, faire de la pédagogie, expliquer, les partis, les médias, ont construit une scène médiatico-politique dans laquelle ne sont commentées que les dernières bêtises par les uns et par les autres.
On en est là aujourd'hui.
Et pour une raison, me semble-t-il, simple, qu'il convient ici de faire valoir, me semble-t-il, c'est que les médias, en l'espèce, ont un intérêt évident à œuvrer dans ce sens-là, parce qu'effectivement, eux, ce qui les intéresse, c'est l'audience. L'audience, c'est des clics, c'est des leaks, des likes, et les likes, c'est ce qui conditionne effectivement le nombre, la qualité et le montant en termes d'euros des publicités qui sont collées. On en est là. Et ça, c'est particulièrement grave, me semble-t-il, parce qu'effectivement, on anesthésie complètement les esprits que nous sommes, à se poser raisonnablement, en raison donc, la question de savoir, mais quelle Europe voulons-nous ?
Oui, voilà. Enfin, des élections
vraiment, au fond,
qui sont, comme à l'accoutumée, très peu passionnantes, mais peut-être encore pire cette fois-ci.
Et j'en arrive d'ailleurs à me dire, vivement le 27 mars, pour que après peut-être on parle enfin d'Europe.
Voilà, mai, 27 mai quand même, parce que
pardon. 27...
Alors une autre polémique que certains médias adorent et adorent patauger dedans, c'est la polémique sur la prise d'otage, deux soldats français tués, et puis ce que tu appelles, Michel, le bashing à l'encontre du ministre des Affaires étrangères.
Un peu sur le même thème aussi, le rapport des médias à effectivement l'actualité. Deux soldats, Cédric de Pierremont, il faut les citer, et Alain Berton-Cello, ont trouvé la mort lors de l'assaut que les Bérets Verts, puisque on l'appelle comme ça, dans le langage courant, ont mené pour libérer les otages, dont deux otages français. Deux morts, donc ces deux garçons, plus un troisième, le guide des otages, s'est libéré.
Qui avait été tué auparavant.
Le ministre Drian fait observer à l'occasion d'une émission, je ne sais plus laquelle, que ces touristes avaient pris des risques inconsidérés, pour ne pas dire irresponsables, et qu'ils n'auraient pas dû se trouver dans cette zone-là, qui était ou en rouge ou en orange, je ne sais plus, peu importe en tout cas, qui était fortement déconseillée sur le site du ministère des Affaires étrangères.
Là encore,
et le lendemain, le lendemain même, déferlement dans les médias, différemment, non, il n'était pas dans une zone à risque, à gros risque ou à petit risque. Ils étaient dans une zone, après tout, normale, etc.
Non, mais ce que je trouve très succulent dans l'espèce, c'est non, je le sais, je n'y étais pas.
Non, mais pire, pire encore, c'est que maintenant, dans les grands journaux, dans les quotidiens, tu as une rubrique « Les décodeurs ». C'est-à-dire, ce sont des gens, des journalistes, qui décodent effectivement ce que produisent comme information, ou ce que disent, ou que rapportent comme information tel ou tel ministre, homme politique, etc., pour décoder, pour dire non, il a dit une bêtise, c'est pas ça qu'il faut, il s'est trompé, il a dit une bêtise, mais volontairement. Là, les décodeurs du Monde, le journal dit de référence, décode le propos du ministre et dit. Il s'est trompé. C'était pas du tout à risque, Sauf que le lendemain, les mêmes décodeurs d'un quotidien de concurrent Libération, lui, le décodeur, dit « Mais non, vous, décodeurs du Monde, vous avez tort. Hein. Effectivement, dans la carte présentée par le ministère des Affaires étrangères, ils étaient dans une zone à risque. » Sauf qu'évidemment, la rectification par les décodeurs et par les autres journaux qui ont repris en foule et en masse l'information sur laquelle effectivement la zone n'était pas risquée, cette information-là, décodée par le journal Libération, elle est passée à la trappe. Et est restée en l'esprit, que le ministre de l'Intérieur. Voilà encore une fois, comment fonctionne le monde, de sorte que j'en arrive à la conclusion, tu connais le proverbe chinois, quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt. Mais moi, si tu me permets de pararaphraser le chinois qui a inventé ce proverbe, je dis, écoute, et quand le sot, en fait, regarde des images, hein, le sage, lui, montre la fabrique, effectivement, de l'information et de l'image en question. Donc, regardez, effectivement, le sage en question.
Voilà. Et avant de marquer une pause, ben, moi, j'ajouterai ma formule également. Les décodeurs sont-ils des déconneurs? Et on marque la pause. Ils le méritent, je crois, vu ce que tu nous as dit, Michel.